Chapitre 24. Alors qu'ils se frayaient un chemin parmi les soldats, Richard répondait à leur salut d'un sourire ponctué d'un hochement de tête. Bien que n'étant pas d'humeur joyeuse, il craignait que les hommes interprètent mal une attitude plus réservée. Dès qu'il l'apercevait, les guerriers redressaient le torse, soudain plein de fierté et d'espoir. Plus d'un restait un long moment immobile après son passage, le poing plaqué sur le cœur. Refusant de leur faire partager l'horrible vision de Chota, Richard se forçait à redonner du cœur au ventre à ses braves. Dans le lointain, des éclairs zébraient le ciel. Malgré le vacarme habituel d'un camp, les cris des hommes et des bêtes, le boucan des maréchaux ferrants, la cacophonie des ordres parfois contradictoires beuglés aux quatre coins du périmètre, Richard entendait les roulements du tonnerre au-dessus des plaines d'Azrit. Des nuages s'accumulaient à l'horizon. Bientôt le vent les pousserait vers le camp et il faudrait songer à se mettre à l'abri. Mais pour l'instant, personne ne se souciait des petits tracas météorologiques. Tous les hommes voulaient apercevoir Richard sur son passage. Quelques années plus tôt, ses soldats rêvaient de le capturer ou au moins de le tuer, mais à cette époque, il n'était pas encore le seigneur Ral. Depuis qu'il remplaçait son tyran de père, Richard avait donné à ses hommes l'occasion de se battre pour une cause respectable. Si la plupart s'en réjouissaient, certains s'étaient ralliés à l'ordre impérial, car ils vomissaient la simple idée qu'un homme puisse avoir le droit de mener sa vie comme il l'entendait. Ces renégats n'étaient pas légion, bien au contraire. Presque tous les Darans, instruits par l'expérience, après avoir vécu longtemps sous le joug d'un tyran, avaient embrassé avec enthousiasme la cause de la liberté. Après des générations de servitude, ces hommes et ces femmes comprenaient qu'une chance unique s'offrait à eux. Grâce à Richard, ils savaient désormais qu'une autre vie était possible dans un monde apaisé et heureux. Le plus beau cadeau qu'on pouvait faire à ses proches, c'était la possibilité de vivre libre. Pour atteindre cet idéal, beaucoup de soldats étaient tombés au champ d'honneur. Un peu comme les morts de Sith, les anciens guerriers de Darkenral suivaient Richard parce qu'ils l'avaient décidé, pas parce qu'on les y contraignait. Et les mots « Seigneur Ral » pour eux avaient un sens nouveau qu'on leur aurait en vain cherché à d'autres moments de l'histoire. Mais ces hommes allaient devoir affronter une horde bardée d'acier qui entendait écraser la liberté partout où elle osait lui résister. Si courageux que fussent les Darans et leurs alliés, ils n'avaient pas une chance contre le raz-de-marée de l'ordre. En ce jour plus que jamais, Richard devait être le seigneur Ral dont ces hommes écoutaient religieusement les propos. Pour que l'avenir ait une chance de ne pas être un cauchemar, il aurait la tâche écrasante de communiquer à ses braves ce qu'il savait, ce qu'il avait vu et ce qu'il pensait. Loin d'être un chef de guerre, ce seigneur-là était un dirigeant qui se souciait de la vie et du bien-être de tous ceux qui se fiaient à lui. Marchant à côté de lui, agrippé à son bras comme à une bouée de sauvetage, Verna tendit un peu le cou pour lui parler à l'oreille. « Richard, te voir juste avant la bataille finale met du baume au cœur à ces hommes. Tu imagines? Une prophétie vieille de plusieurs millénaires se réalise sous leurs yeux. » N'était un détail. Les soldats ne s'attendaient sûrement pas au discours que leur tiendrait bientôt leur chef. L'armée avançant régulièrement vers le sud pour se dresser face à l'ordre impérial, Richard et ses compagnes avaient dû chevaucher plus longtemps que prévu après avoir quitté le palais du peuple. Dès que l'ordre entrerait en Dara, cette force serait l'ultime rempart contre la barbarie de Jagang. Dernier espoir de l'Empire d'Aran, ses combattants étaient prêts à se battre jusqu'à la mort. Pour rien, parce qu'ils n'avaient pas une chance de vaincre. Richard l'aurait juré sous la torture, et il allait devoir les persuader de ne pas se sacrifier en vain. Kara et Nietzsche le suivaient comme son ombre, marchant littéralement sur ses talons. Pour le protéger, elle n'avait sûrement pas besoin de le serrer de si près, mais il n'avait même pas essayé de le leur dire, autant vouloir convaincre le ciel de ne plus flotter au-dessus de sa tête. Quand il jeta un coup d'œil derrière lui, Nietzsche lui fit un petit sourire tendu. Que dirait-elle lorsqu'elle aurait entendu le discours qu'il s'apprêtait à tenir aux soldats? Richard pariait qu'elle comprendrait. Parmi tous ceux qui l'écouteraient, elle était la mieux placée pour ça et il espérait bien qu'elle ne le décevrait pas. Ces derniers temps, sans son soutien, il aurait probablement renoncé en plusieurs occasions. Mais chaque fois qu'il se résignait à laisser tomber son fardeau, elle lui donnait la force de le porter un peu plus loin. Kara aussi comprendrait et approuverait ce qu'il prévoyait de dire, mais pour des raisons bien différentes. L'air aussi peu commode que d'habitude, comme si elle était prête à tuer l'armée entière en cas de trahison, à vrai dire c'était tout à fait le cas, car apparaissait-elle qu'en elle-même, mais c'était une illusion d'optique. Quand on la connaissait bien, certains signes ne trompaient pas. Trépignant d'impatience, elle attendait de revoir enfin le général Meffert, autrement dit son Benjamin. Depuis quelque temps, la terrible mort de Sid semblait un peu moins réticente à laisser paraître son attachement pour le bel officier d'Aran. Selon Richard, Nietzsche ne devait pas être étrangère à cette évolution. Alors même que le monde semblait s'écrouler autour de lui, son monde ayant déjà perdu tout ce qui l'embellissait et le rendait tolérable, Richard se réjouissait qu'une mort de Sid puisse éprouver de tels sentiments et consentir à ne plus les cacher au moins à son seigneur. Exactement comme Richard l'avait deviné des années plus tôt, les femmes en rouge, transformées en monstres par un entraînement impitoyable, restaient des êtres humains dont les aspirations et les désirs, si étouffés fussent-ils, survivaient sous le masque de la cruauté et de l'indifférence. Et si une femme comme Kara pouvait changer, tous les espoirs restaient ouverts pour l'avenir, ça ne faisait aucun doute. À condition qu'il en existe un d'avenir. Alors qu'il passait devant des tentes, des chariots, des chevaux attachés à des piquets et des cuisines ambulantes, des centaines d'hommes abandonnaient leurs tâches en cours pour venir saluer le seigneur Rall. Jetant un coup d'œil au ciel de plus en plus menaçant, Richard songea qu'il devait plutôt accélérer le mouvement. Sinon, le camp ne serait dressé pas assez tôt pour épargner une bonne douche aux soldats. Richard aperçut soudain le général Meffert au milieu d'un océan d'hommes en uniforme noir. Au centre d'un cercle d'officiers qu'il dominait presque tous d'une bonne tête, le chef de l'armée d'Aran attendait calmement son seigneur. Jetant un coup d'œil par-dessus son épaule, le sourcier vit le sourire presque épanoui de Kara. À l'évidence, elle avait également aperçu Benjamin. Aucun pavillon n'étant assez grand pour accueillir autant d'hommes, Richard allait tenir son discours dans une grande clairière hérissée de rochers. En prévision de l'orage, Meffert et ses principaux officiers s'étaient installés sous un auvent arrimé à quatre énormes pierres. Si le vent se mettait de la partie, cette protection se révélerait vite dérisoire. Mais au moins, les têtes pensantes de l'armée seraient au sec tandis qu'elles réfléchiraient aux ordres à donner et aux mesures à prendre. Alors que les premiers coups de tonnerre faisaient vibrer le sol, Richard baissa les yeux sur Verna. « Vos sœurs seront-elles présentes ?»« Oui. » J'ai envoyé des messagers les prévenir qu'elles étaient convoquées ici comme tous les officiers. Quelques-unes n'auront pas eu le temps de rentrer de leur patrouille, mais les autres honoreront le rendez-vous. « Seigneur Rall, je te salue !» lança Meffert en se tapant du poing sur le cœur. « Salutations, général. Content de te voir en bonne forme, mon ami. Les hommes paraissent avoir le moral, comme d'habitude. On voit qu'ils sont bien commandés. Merci du compliment, seigneur. » Les yeux bleus de l'officier se rivèrent sur Kara. « Maîtresse Kara, te revoir me ravit les yeux et le cœur, Benjamin !» lança la mort de Sid avec un grand sourire. En d'autres circonstances, Richard aurait pris un grand plaisir à voir les deux amoureux se regarder comme s'ils étaient seuls au monde. À chacune de ses retrouvailles avec Callan, il avait éprouvé la même chose, mais la guerre lui avait tout pris à part ses souvenirs. Impressionnant dans sa cuirasse soigneusement lustrée, le capitaine Zimmer se tenait aux côtés du général. D'autres officiers supérieurs attendaient un peu en retrait, peut-être pour mieux profiter des avantages de l'auvent. Oubliant leur conversation en cours, tous les hommes se turent et tournèrent la tête vers le chef suprême de l'Empire d'Aran. N'ayant pas de temps à perdre en ronde jambe, Richard entra dans le vif du sujet. « Général, tous les officiers et les sous-officiers sont-ils réunis ?»« Oui, seigneur, à part quelques éclaireurs partis en patrouille. Si j'avais été prévenu plus tôt de votre arrivée et de vos intentions, j'aurais sonné le rappel, mais le temps m'a manqué. Si vous le souhaitez, je leur enverrai des messagers. »« Non, ce ne sera pas nécessaire puisqu'ils reviendront bientôt. Leurs camarades leur répéteront ce que je suis venu vous dire. » De toute façon, il y avait trop de soldats devant le sourcier pour que tous puissent entendre son discours. Les officiers et les sous-officiers leur feraient passer le mot plus tard. Par bonheur, ils étaient assez nombreux pour que ça ne prenne pas trop longtemps. D'un geste plein d'autorité, Meffert indiqua aux simples soldats de retourner à leurs occupations pendant que leur chef en apprendrait plus sur leur avenir immédiat. Puis, Le général invita Richard et son escorte à se réfugier sous l'auvent. Un coup d'œil au ciel confirma au sourcier qu'il n'en aurait pas terminé avant l'averse. Une fois sous l'abri de toiles goudronnées où se pressaient des centaines d'hommes, Richard se tapa du poing sur le cœur et se jeta à l'eau sans plus attendre. « Je suis ici pour vous parler d'un sujet très grave », déclara-t-il alors que tous les regards se rivaient sur lui. « La bataille finale contre l'ordre impérial est imminente, tout le monde le sait. Quand j'aurai fini ce discours, il ne devra plus y avoir le moindre doute dans votre esprit. Je veux que vous mesuriez les enjeux et que vous compreniez pourquoi je vous demande, eh bien, ce que je vais vous demander. C'est notre avenir à tous qui est en jeu. Dans ce contexte, je ne vous dissimulerai aucune information et je répondrai de mon mieux à toutes vos questions. S'il vous plaît, n'hésitez pas à en poser. Faites-moi part de vos objections, voire de vos désaccords, le cas échéant. J'ai la plus haute estime pour votre expérience collective et vos compétences. Sincèrement, je me fie à vous, soldats, et je vous confierai ma vie sans hésiter. Mais j'ai dû intégrer à l'équation des variables qui n'entrent pas dans votre domaine d'expertise. Lorsque toutes ces données furent clairement hiérarchisées dans ma tête, j'ai fini par arrêter une décision. Puisque vous n'êtes pas en possession de toutes les informations pertinentes, j'imagine très bien qu'il puisse vous être difficile d'adhérer à mon raisonnement. Aujourd'hui, je ferai de mon mieux pour vous expliquer ma démarche, mais ne vous y trompez pas, je ne reviendrai pas sur mes conclusions. Au bout du compte, vous devrez exécuter mes ordres. » Les officiers se dévisagèrent, déconcertés. Contrairement à tous ses prédécesseurs, ce seigneurial ne les avait pas habitués à de telles manifestations d'autorité. Dans un silence de plomb, Richard fit quelques pas de long en large en réfléchissant à ce qu'il allait dire ensuite. Il se campa soudain devant les hommes rendus muets par la surprise. « Des officiers et sous-officiers ont quelles préoccupations essentielles? En d'autres termes, à quoi pensent-ils presque en permanence ?» Après un long silence tendu, un officier placé sur la droite de Richard se décida à foncer tête baissée. « Seigneur Hall, comme vous, nous sommes fascinés par la bataille finale. »« C'est la réponse que j'attendais, » dit Richard. Il s'immobilisa et se campa fièrement devant ses hommes. « Nous en sommes tous là et il nous paraît sûr et certain que tout se dénouera un jour sur un champ de bataille. Un camp l'emportera et tout sera décidé. Soit dit en passant, Jagang voit les choses exactement comme ça. « Dans le cas contraire, il ne dirigerait pas l'ordre, » marmonna un vieil officier. Quelques rires saluèrent cette saillie. « Très bien vu, » dit Richard. « L'objectif de l'empereur est de nous contraindre à cet ultime affrontement afin de nous écraser à tout jamais. Croyez-moi, c'est un adversaire redoutable, car il nous contraint à nous concentrer aussi sur cette fameuse bataille. Jusque-là, sa stratégie fonctionne à 100%. » Les rires s'étaient tus. Assez logiquement, les militaires n'appréciaient pas beaucoup que leur chef accorde autant de crédit à l'ennemi. Un bon officier veillait toujours à ne pas trop louanger le camp adverse, car ça risquait de briser le moral de ses propres hommes. Richard, lui, n'avait aucun intérêt à décrire Jagang sous un jour moins menaçant. Au contraire, il était là pour donner à ses officiers une idée précise de ce qu'ils affronteraient et de la gravité de la situation. « Jagang adore un jeu nommé le Jaladijin », annonça-t-il. Voyant plusieurs officiers hocher la tête, il comprit qu'ils avaient entendu parler du loisir favori de l'empereur. « Il possède sa propre équipe, un peu comme l'ordre impérial à son armée. » Chaque fois que son équipe dispute une rencontre, il entend qu'elle gagne. Pour ça, il a recruté les meilleurs joueurs, les plus doués bien sûr, mais aussi les plus impitoyables. En fait, il n'a pas du tout l'esprit de compétition, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Son principal souci, c'est d'écraser l'opposition. Malgré tout, son équipe a un jour connu la défaite. Logique avec lui-même, Jagang n'a pas décidé de mieux entraîner ses joueurs afin qu'ils se surpassent lors de la revanche. Non. Il a formé une autre équipe, avec des athlètes plus grands, plus forts et plus rapides. Au fait, dans notre langue, Jaladijin se traduit par le jeu de la vie. Au début de sa fulgurante carrière, quand il travaillait à unifier les divers pays de l'ancien monde, Jagang a perdu quelques batailles. De ses défaites, il a tiré le même enseignement que de sa mésaventure au Jala. Pour ne plus risquer de revers de fortune, il a levé la plus grande armée que le monde ait connue. Et quand a sonné l'heure d'envahir le nouveau monde, il s'est assuré que cette force serait suffisante pour l'emporter à coup sûr. À sa place, nous aurions tous fait la même chose, n'est-ce pas? Encore aujourd'hui, il arrive à l'empereur de perdre une bataille. Chaque fois, sa réponse est la même, gonfler les rangs de son armée afin que le nombre soit de plus en plus en sa faveur. À l'heure où je vous parle, les hordes de Jagang sont assez puissantes pour écraser n'importe quelle résistance. L'empereur sait qu'il gagnera, donc il est pressé de livrer la bataille finale. En plus de tout, il a le pouvoir de marcher dans les rêves, une aptitude qui lui est conférée par une très ancienne magie. Quand il envahit l'esprit d'une personne, Jagang ne vise pas seulement à collecter des informations. Non, il entend prendre le contrôle de sa proie. Aujourd'hui, comme vous le savez tous, il tire les ficelles d'un grand nombre de marionnettes magiques. Beaucoup de sœurs de la lumière sont sous sa coupe, et il a également suborné quelques championnes de l'obscurité. En d'autres termes, il dispose de l'acier et de la magie.
« Seigneur Ral !»
osa le couper un officier blanchi sous le harnais.
« Vous sous-estimez gravement vos hommes. Notre armée est pour l'essentiel composée de soldats d'Aran réputés pour leur qualité et leur courage. Les autres combattants ont été entraînés par nos soins. Tous ces guerriers ont conscience de l'importance de l'enjeu. Ils n'ont rien à voir avec une vague bleusaille, seigneur. Ce sont des vétérans qui ne s'en laisseront pas compter par les bouchers de l'ordre. Pour ce qui est de la magie, nous avons Verna et ses sœurs, et elles ont souvent démontré leur valeur. En plus de tout, et pour finir, nous avons le droit de notre côté.
L'ordre impérial n'est pas condamné à perdre sous prétexte qu'il est maléfique, dit Richard. À long terme, le mal finit par s'autodétruire, c'est bien connu. Mais ce sera une maigre consolation quand nous reposerons tous 6 pieds sous terre. Avant de mourir victime de son propre poison, le mal peut dominer le monde pendant 1 ou 2 millénaires.
Richard recommença à marcher de long en large devant les officiers.
Il y a des moments dans l'histoire où le courage d'une poignée d'individus a pu renverser le cours des choses. Je veux bien le reconnaître, et je compte même sur ça pour nous sauver. Mais nous n'avons pas droit à l'erreur, ne perdez jamais cela de vue. L'heure est venue de décider ce que sera notre avenir. Pour survivre, il faudra consentir à tous les sacrifices requis, si douloureux fussent-ils. Notre futur et celui de nos enfants reposent sur nos épaules, et ce fardeau risque de nous écraser.
« Seigneur Ral, dit le vieil officier. « Tous nos hommes savent que nous sommes dos au mur. Ils se battront, ne vous en faites pas une once de souci à ce sujet. »
Richard comprit que les officiers ne voyaient pas du tout où il voulait en venir. S'immobilisant, il croisa les mains dans son dos et sonda attentivement les visages qui lui faisaient face. Dans un coin de sa tête, il repassait en boucle l'horrible vision que Shota lui avait imposée. La certitude que tout ça finirait par un désastre était comme un boulet qui l'empêchait de plus en plus d'avancer.
Je dis depuis pas mal de temps que je ne dois pas conduire nos forces à la bataille contre l'ordre parce que nous serons laminés. Des événements récents n'ont fait que confirmer cette intuition.
Des grognements montèrent des rangs. Craignant que le mécontentement prenne des proportions désagréables, Richard enchaîna sans attendre.
L'armée de l'ordre entrera bientôt en Dara. Et elle fondra sur le palais du peuple. Vous marchez vers le sud pour lui barrer le chemin. C'est exactement ce que veut Jagang. Nous entrons dans son jeu, et c'est lui qui nous dicte nos mouvements. En grand stratège, il nous incite à livrer une bataille ingagnable pour nous et imperdable pour lui.
Des hommes crièrent que l'avenir n'était pas écrit. Le nouveau monde avait une chance, le nier tenait de la folie. Richard leva une main pour demander le silence.
La prédestination est une foutaise, je suis d'accord. Mais ça n'empêche pas la réalité d'être ce qu'elle est. Un bon militaire établit sa tactique en fonction de ce qu'il sait, pas de ses souhaits.
Même si nous parvenions par miracle à remporter la victoire, il deviendrait vite évident que la bataille n'avait rien de décisif.
Très rapidement, nous verrions qu'il s'agissait en fait d'un épisode de la guerre, terriblement coûteux, qui n'interdit pas à l'ordre de revenir à l'assaut avec plus d'effectifs encore. En cas de victoire, une simple hypothèse, car je suis sûr que nous n'avons pas une chance. Il nous faudrait bientôt livrer une autre bataille finale, puis une autre encore.
Perdant des hommes chaque fois, nous nous affaiblirons vite, puisque nos ressources ne sont pas inépuisables, contrairement à celles de l'ordre. Au bout du compte, nous serons terrassés pour une raison très simple. Personne ne peut gagner une guerre défensive. À l'occasion, il est possible de remporter une bataille en restant sur la défensive, mais tout un conflit, c'est infaisable.
Que proposez-vous, seigneur ?
Demanda un officier.
Un armistice ?
Richard chassa cette éventualité d'un geste agacé.
L'ordre n'accepterait même pas une reddition. Au début, Jagang aurait peut-être consenti à nous réduire en esclavage, à condition que nous lui léchions les bottes d'abord. Après un si long conflit, il veut noyer dans le sang ses rares défaites. De toute façon, le résultat, au bout du compte, reste le même. Un calvaire pour les peuples du Nouveau Monde. Être écrasé ou se rendre ne change rien. Face à un adversaire comme l'ordre, la sentence est identique. L'anéantissement.
Alors que faire ? Combattre jusqu'à ce qu'on ait fini par nous tuer ou nous capturer ?
Les hommes tournèrent la tête vers l'officier qui venait de parler avec tant de rage. S'opposant à l'ordre depuis des années, ces militaires n'en étaient pas au premier débat de ce type. En conclusion, on convenait toujours qu'il fallait repousser ou contenir l'envahisseur. C'était le devoir de ces guerriers. Et la seule chose qu'ils savaient faire de leurs 10 doigts. Richard jeta un coup d'œil à Kara. Resplendissante dans un uniforme de cuir rouge, elle semblait prête à flanquer à elle seule une formidable dérouillée à l'armée de l'Ancien Monde. Le sourcier désigna Nietzsche, debout aux côtés de la mort de Sith.
Cette femme servait naguère dans les rangs de l'ordre.
Anticipant les accusations d'espionnage ou de trahison, Richard ajouta
« Comme vous qui étiez presque tous dévoués à Darkenral. »
« Mais aviez-vous le choix ?» Darkenral se fichait de votre libre arbitre. À ses yeux, seule l'obéissance importait. Quand la possibilité de choisir s'est présentée, vous avez rallié le camp de la liberté. Eh bien, Nietzsche a suivi le même chemin que vous. Vous serviez un tyran parce que vous redoutiez d'être emprisonné ou exécuté. Les bouchers de l'ordre croient en une cause sacrée. Rêvant de se sacrifier, ils participent tous joyeusement à l'effort de guerre. Pour avoir côtoyé Jagang, Nietzsche a glané des informations de toute première qualité. Son expérience peut vous aider à relativiser les choses et à mieux comprendre notre situation.
Le sourcier se tourna de nouveau vers Nietzsche. Immobile comme une statue, ses cheveux blonds cascadant sur ses épaules, elle était d'une beauté frisant la perfection. S'il avait dû sculpter une statue en la prenant pour modèle, Richard n'aurait probablement rien compensé, comme on disait dans le jargon des artistes. Incarnation même de la beauté, la magicienne avait vu des horreurs qui dépassaient l'imagination, et elle en avait fait quelques-unes par la même occasion.
Nietzsche, veux-tu décrire à ces militaires ce qui les attend s'ils tombent sous le joug de l'ordre ?
Ignorant ce que savait son ami, du moins dans le détail, Richard avait cependant compris que les idéologues de l'ordre abominaient la vie. Plus grave encore, ils la méprisaient et n'en démordaient pas même quand leur propre existence était en jeu.
« L'ordre n'exécute pas immédiatement les prisonniers !»
dit Nietzsche. Elle vint se camper à côté du sourcier, balayant du regard les rangées de Daran.
« Pour commencer, il les castre !»
Un cri indigné jaillit de centaines de gorges.
Les humiliations ne s'arrêtent hélas pas là. Quand ils ne peuvent plus être exploités, les survivants sont torturés par des experts tels que le monde en connaît peu. Le cycle terminé, les éventuels rescapés sont mis à mort dans des conditions abominables. Les hommes qui se rendent sans combattre, livrant parfois des cités entières aux Soudards, connaissent un sort bien plus enviable. Car ne vous y trompez pas, la cruauté de l'ordre n'est pas gratuite. Les massacres sont un message adressé aux futurs esclaves. Voilà ce qui vous attend si vous ne coopérez pas. Dans les villes conquises, les viols et les meurtres servent à instiller la peur dans le cœur des défenseurs de la cible suivante. Grâce à cette stratégie de l'intimidation, beaucoup de cités ont capitulé sans offrir la moindre résistance. Après avoir combattu l'ordre des années durant, vous ne pourrez compter sur aucune forme de clémence. Si vous êtes fait prisonnier, votre destin sera scellé. Avant de mourir, vous finirez par regretter d'avoir vu le jour, faites-moi confiance. Je sais, vivre sous la tyrannie de l'ordre n'est guère plus agréable que de tomber sous la hache de ses bourreaux.
En guise d'existence, on a droit à une agonie. La seule différence, c'est qu'elle dure des années. Dans de telles conditions, les contempteurs de la vie croissent, se multiplient et prospèrent. L'ordre encourage et soutient les individus de ce genre. Après tout, la haine n'est-elle pas au cœur de l'enseignement des idéologues de l'ancien monde? Dans une société de ce type, la misère se répand comme une traînée de poudre. Le bonheur les répugnant, ceux qui haïssent la vie se vautrent complaisamment dans le malheur des autres. Si vous êtes capturés et réduits en esclavage, sachez que ces traîtres à la vie seront vos maîtres et qu'ils auront tous les droits sur vous. »
Nietzsche marqua une pause. Dans le silence de mort, Richard entendit les premières gouttes de pluie qui s'écrasaient sur la toile goudronnée de l'auvent. La tempête approchait au propre comme au figuré.
« Pour les soldats de l'ordre, »
reprit Nietzsche,
« les testicules des vaincus sont un mets délicat. Après une bataille, les civils qui suivent l'armée viennent systématiquement détrousser les cadavres. Lorsqu'ils tombent sur un blessé, ils n'hésitent jamais à les masculer. Dans le camp, ces trésors culinaires se négocient très cher. Persuadés qu'ils y puiseront de la force et de la puissance virile, les soldats s'engouinfrent sans retenue. Ensuite, ils vont s'occuper de la vertu des prisonnières. »
Richard attendit un peu, puis demanda.
« Tu as quelque chose à ajouter, Nietzsche ?»«
Pourquoi ? Ça ne suffit pas ?»«
Eh bien, je crois que ça ira, oui. »
Le sourcier se tourna de nouveau vers son auditoire.
« La vérité est d'une simplicité enfantine. Vous n'avez aucune chance de vaincre. Si vous livrez bataille, vous serez taillé en pièces. »
Richard prit une grande inspiration afin de prononcer d'impensables paroles.
« En conséquence, il n'y aura pas de bataille finale. Nous n'affronterons pas Jagang et sa horde de bouchers. En ma qualité de chef de l'Empire d'Aran et de seigneur Hall, j'interdis que mon peuple s'autodétruise ainsi. Il n'y aura pas d'ultime massacre. Je suis venu disperser notre armée. Que Jagang s'empare du nouveau monde si ça lui chante. Nous ne lèverons pas le petit doigt pour l'en empêcher. »
Richard vit que plusieurs officiers pleuraient à chaudes larmes.